La déesse aux embouches. Cycle de performance radiophonique conçu avec les commissaires Raphaël Brunel et Anne-Lou Vicente.
Anna, ouais, je voulais peut-être que tu reviennes un peu sur ce film À voix off, qui est ton dernier film que tu as réalisé et que tu as montré là dans ton exposition personnelle, cette cave derrière les dents. Justement, il y aura un petit extrait là en amont de la table ronde, un extrait de Peter Zendi qui parle à France Culture de son livre La Voix par ailleurs, et donc de cette antre il parle d'antriloquie justement. Et mais c'est pas forcément la question là que je voulais te poser d'emblée, mais ce rapport à la voix off justement et au cinéma notamment, dans ton rapport à la voix et à la voix féminine notamment, qui est un peu le cœur ou un élément assez structurel dans ce film que tu as composé, on va dire, avec une collecte comme ça de voix féminines et masculines, et qui sont transcrites là par un personnage principal, disons, une protagoniste dans le film qui se fond un peu dans le décor d'une salle de cinéma ou de théâtre.
Alors, ce film est né d'une recherche que j'ai entamée aussi avec vous à l'occasion de l'exposition à l'IAC, des voix traversées. Où en fait je suis tombée sur le livre de Clara Schulman, Zizani, qui parle de la voix des femmes et des voix de femmes qui l'entourent, et qui vient comme ça retracer, parler, réfléchir autour des voix de femmes qui l'entourent et qui avec lesquelles elle cohabite, mais aussi des voix de films, des voix d'artistes, des voix d'amis. Enfin voilà, au cœur de son livre, il y a un peu tout un mélange de réflexion autour de ces voix-là qui vivent autour d'elle. Et dans ce bouquin, elle cite un livre de Kaja Silverman qui s'appelle The Acoustic Mirror, qui, elle, dans les années 80, analyse le cinéma hollywoodien des années 40-50 et la place sexuée en fait, de la voix dans l'espace du corps et de l'image. Et elle analyse, en fait, à travers plein d'exemples du cinéma des jeunes studios hollywoodiens, que la place de la voix de la femme est vraiment liée à son corps, attachée à son corps, toujours dans l'espace diégétique de l'image. Donc l'espace diégétique, c'est l'espace c'est les sons qui sont entendus par les personnages à l'intérieur de l'image. Là où la voix des hommes a la capacité de se dissocier du corps et donc à devenir, par exemple, des voix off. Elle trouve aucun exemple de voix off féminine désincarnée, c'est-à-dire qui n'a pas de corps du tout pendant toute la durée du film. Il y a des voix off féminines qui sont des voix de la pensée, donc qui sont finalement remises à l'intérieur du corps, même si elles sont effectivement peut-être post-produites. Enfin, voilà, en tout cas, elles sont remises dans un corps qui apparaît à l'image. Il y a juste un exemple de film avec une voix off désincarné, c'est A Letter to Three Wives, mais l'objet du film, c'est justement ce corps absent que jalouse tous les personnages. Le corps absent de la voix off. Et donc, la pièce à l'IAC, travaillée autour... Enfin oui, ces personnages féminins aussi arrivent toujours, enfin très souvent, ils viennent pour interrompre le flux de la narration, pour mettre en pause, pour que, par exemple, la showgirl vient stopper vraiment le moment du récit, et on se met à contempler cette voix et ce corps unis, et il y a une contemplation érotique, en fait, de cette voix qui se confond avec ce corps. Toutes les bouches des spectateurs sur place sont baies, ouvertes, tout s'arrête, tout se suspend. Là où la voix off, c'est la voix qui fait avancer le récit, qui fait avancer la narration, qui fait avancer le flux, qui organise le temps et l'espace. Et c'est une voix qui est acousmatique, donc qui a presque un statut théologique, un statut qui est au-dessus, hors de l'image. Voilà, et donc dans ce film, à voix off, j'ai eu envie de venir travailler autour de tous ces films qui sont cités dans ce livre de Kaja Silverman, et de faire une sélection en fait, de toutes les voix off que je trouve, dans un certain nombre de films, qui sont soit des voix qui parlent d'un personnage féminin, donc des voix off qui parlent d'un personnage féminin, qui le décrivent, qui s'adressent à elle, ou certaines voix qui viennent d'un personnage féminin. Et ça a organisé comme ça toute une narration. Ensuite, je les ai toutes mis bout à bout. J'ai essayé de les... Voilà, j'ai fait un processus de collage qui forme une narration qui est pas tout à fait compréhensible parce que le personnage féminin qui est décrit, il est complètement incohérent. En fait, il est dans toutes ses impossibilités de cohérence. C'est à la fois une star, à la fois une mère, à la fois elle n'a jamais eu d'enfant, à la fois elle est... ingénue, à la fois c'est une ancienne danseuse de striptease, à la fois voilà, elle est comme...
Une méta-femme.
C'est une méta-femme, exactement. Et donc sous ce texte-là est dit par un seul et même personnage qui unit en fait toutes ces voix et qui est en fait une ventriloque qui est filmée dans cette salle de cinéma et de théâtre. Il y a un peu cette ambiguïté sur est-ce que cette salle c'est une salle de cinéma ou une salle de théâtre. La ventriloquie, elle est un peu au cœur de ça, en fait, d'un phénomène de dissociation qui peut effectivement venir à la fois être sur scène et à la fois parler un peu métaphoriquement du processus de la post-production, de quelles sont les voix qui habitent l'image, où est-ce qu'elle l'habite, le corps de l'image. Enfin, il y a une espèce de métaphore, voilà, un peu entre le corps de l'image et le corps de la protagoniste. Et donc, Johanna Bossard, qui ventriloque le texte, évidemment, on n'a pas la clé de la ventriloquie tout de suite. On est d'abord dans une voix off qui décrit ce personnage. Johanna arrive dans l'image, on dirait que ce personnage qui est décrit, c'est Johanna. Et puis, rapidement, cette histoire ne tient pas vraiment. En même temps, elle tient, c'est globalement l'histoire d'un féminicide, où le personnage reviendrait pour se venger un peu. Et donc Johanna déroule cette histoire et elle habite en fait ce récit. Tantôt on dirait qu'on parle d'elle, tantôt on dirait qu'elle s'adresse à nous par un jeu de micro-gestes, de micro-regards. Tantôt on dirait qu'elle entend carrément la voix dans l'espace de l'image, tantôt voilà, elle navigue en fait à l'intérieur de l'espace, de l'image par la voix. Et à la fin il y a ce moment où elle s'enlève les cheveux du visage et il y a un bruit de micro assez fort. Et il y a aussi, carrément, à la fin, la dernière phrase qui est dite sans être ventriloquée, où c'est la même voix qui le dit que celle qu'on entendait depuis le début, et donc qui vient comme révéler le procédé qui jusque-là était sous-entendu, on n'est jamais vraiment sûr. En même temps, cette voix a une qualité vraiment bizarre qui est liée à la ventriloquie, mais qui est aussi liée à l'accent et au grain de la voix des années 50 que Johanna copie, qui finalement se trouve être assez proche d'une voix, enfin de la voix que les ventriloques utilisent pour ventriloquer naturellement. Une voix un peu nasillarde comme ça.
Dans le film aussi, il y a un rapprochement, on va dire, du personnage, un effet de zoom comme ça progressif qui laisse aussi progressivement deviner justement des... on va dire des frétillements ou des tressautements de la bouche. Donc on l'a aussi avant le dévoilement, on va dire, final. On pressent quelque chose sur cette espèce de voix intérieure qui pourrait être en effet une sorte de pensée à voix haute, mais dont on pourrait éventuellement, mais difficilement encore, deviner justement le côté ventriloque, quoi, dans les signes que ça peut donner sur l'image.
Ouais, il y a en fait cette gorge qui est éclairée par son pull. Oui, est-ce qu'elle a un pull de la même couleur que les sièges? Donc elle est dans une confusion un peu avec la salle. Enfin, en tout cas, c'est le signe qui est envoyé. Et il y a cette gorge qui reflète en fait son pull qui se reflète dans sa gorge, qui se met à son gloître en fait, qui se met à bouger. Enfin, on le voit bouger. Plus on se rapproche, plus on le voit bouger. Et qui vient effectivement amener déjà quelques indices. En fait, il y a plein d'indices qui sont disséminés dans tout le moment du plan séquence, qui vient effectivement se concentrer à la fin sur la bouche du personnage. Et il y a notamment aussi le son qui vient donner des indices, où au début du plan séquence, il y a Mathieu qu'on voit, donc Mathieu qui est ingénieur son, qui est l'ingénieur son du film, qu'on voit assis sur le bord de la scène, en bordure de cadre, et qui disparaît assez vite dans le zoom. Mais au début, quand il est dans le cadre, on le voit traficoter les câbles et faire quelques gestes en fait d'arrachement et de branchement de câbles qu'on entend au son, c'est-à-dire qu'on entend un micro qui se branche et qui se débranche régulièrement. Et en fait, c'est le micro que Johanna a, qui est un micro cravate, qui est le micro de la voix off sèche. Et quand Mathieu débranche ce micro-là, on a un micro qui est presque le micro de la caméra, en fait, le micro qui enregistre l'espace et la personne qui est dans l'espace qui dit ce texte. Et donc il y a un trouble un peu sur la provenance de la voix. Est-ce que c'est une voix qui est diffusée dans l'espace? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui parle dans l'espace? Est-ce que finalement elle est ventriloquée? Est-ce que, enfin voilà, ça a amené plein d'indices sur une voix qui serait tantôt dans l'image, tantôt hors de l'image, tantôt dans le corps, tantôt hors du corps, et qui navigue en fait dans un aller-retour un peu on-off, in-off, à travers Johanna.
Anna Holweck, à voix off.
To begin with, all the incident and characters in the story might be fictitious, and any resemblance to you or me might be purely coincidental. Actually, our story has nothing whatsoever to do with this. We only brought up the subject to show you that in all that time, nothing's changed. Now we want you to meet her. There she is. Ready and waiting. I know now. Nothing.
Everyone is special. Everything is magic. Why not? Why? I said to myself. Not. So you wait. You are really near to good luck. She's a great star. A true star. She never was really
anything less or anything else. Hugh Roman Huggins, so beautiful. So exotic. So dangerous to know. 42 years old. A widow leads a quiet life as a house worker. The world's number one singular disability. She was not even a movie star. She danced in the night long. You all know all about her. The golden girl. The color girl. The girl next door.
The girl on the moon. Ready to
fight,
screaming to
show you. She lost. But it doesn't matter. It doesn't matter nearly as much as what all of you don't know. Yet. Sometimes I think this world is made of nothing but that shit. I was not like the others. Nobody waited for me. I wanted to become more graceful and learn good manners. Nothing else. Nothing else mattered. Everybody wanted to know everything about her. And they wound up knowing nothing. Because there was nothing to know. This Bundalakation. This hot lane. Was a real. She carried this great secret in the silence of her heart. What can they be doing with it? My home's Mexico. I'm. She had a great view. Same, she had another one. A girl. Day after day, she walked away. Remaking the old house into a home. She gazed at working at school. She had two long gaggies. Again, she had none to challenge her. She has been a star here since. But for this woman, the day will not be ordinary. It seemed to me I am not always at it to Larkin. I held helpless. How could I compete? I felt terribly guilty and ashamed of myself. And one thing is important. It is not important that you hear what you say. It doesn't matter really as much as what you do. Why do you want to be different? However, it is important that you know where you are and why you are here. We were right. Chasing tourists, to towns, to Israel. In that one moment, everything happened. Everything I saw was safe. When was it? How long? It seems a lifetime ago. Don't bat your nails, honey. Hurry, Houston, or perhaps I'm murdered. Take it easy. Don't call attention to yourself. Don't lose your head. Don't lose your head. Pretty soon, she'll give her a certain approach. Women are so silly. What happened next? He should go to the movies. It's history. Movie history. You've seen it and read it a thousand times. It's one of the most tiresome cliché of storytelling. But it doesn't matter. It doesn't matter nearly as much as what all of you don't know.
Yeah. And in the middle of all this fantastic reality, there she was, more than away than any of it. She showed no way, no pleasure, no interest, no nothing. You'd think it was her own life she was hiding for.
but she was dead. And here it was. But then, this was the end. For me, it was a new beginning. All the time arguing away, I spoke the truth. She's dead. This time yesterday, she was just another pretty girl. But now, she's long laid out in 10,000 pieces of toast. You just don't worry, you famous oyster, like she was an unidentified goddess. Her name, her face, her history, her words high since the day, for 6 days. Tomorrow, a new case will hit the headlines. Yet, some will anger her. She won't be entirely forgotten. Not entirely. But it doesn't matter. It doesn't matter nearly as much as what a lot of you don't know. Yet. Hi-ho. Good night, everybody.
La déesse aux sans-bouches. Cycle de performances radiophoniques conçu avec les commissaires Raphaël Brunel et Anne-Lou Vicente. Dans le cadre de Viva Villa, le festival des résidences d'artistes de la Casa de Velázquez, la Villa Cujuyama, la Villa Albertine et la Villa Médicis. En direct et en public le 8 novembre 2024, depuis le Centre Wallonie-Bruxelles, Paris.